C'est une grâce de croire ce que la chorale nous a chanté. Sur nous aussi, le ciel est ouvert. La gloire est préparée. Nous faisons qu'attendre que le Seigneur revienne nous prendre et que ensuite, pour toujours, nous soyons auprès de lui. Et cette vallée de tristesse et de malheur ou bien de misère, que nous devrions donc lui dire adieu ou bien au revoir, c'est pareil. Nous reviendrons quand tout sera purifié sur terre et ordonné et que le Seigneur pourra établir son règne et que Satan sera lié et que plus rien de mal pourra se passer. Dès le moment quand le Seigneur reviendra prendre les siens, alors nous n'avons plus rien à craindre. Alors il n'y a plus d'épreuves, plus de batailles, plus de combats, plus de péchés, plus de tentations, rien. Et d'attaques, rien. Alors nous irons bien pour toute éternité. Et nous sommes très, très reconnaissants pour cela. Je ne voudrais pas manquer très particulièrement de souhaiter la bienvenue à nos bien-aimés frères qui parlent l'italien et qui parlent le français. Nous avions cet après-midi déjà à Mülheim une belle réunion biblique et ces croyants ont une belle mentalité. Ils peuvent être ouverts, joyeux. Nous pouvons vraiment apprendre beaucoup d'eux et bien utiliser beaucoup de choses qu'ils ont. Nous avons un frère de l'Éthiopie ici. Nous voulons d'une manière particulière lui souhaiter la bienvenue. Je ne sais pas exactement où est-ce qu'il est assis en ce moment. Est-ce que le frère est là? Oui. Oui. Est-ce que tu pourrais te lever, s'il te plaît? Est-ce que tu pourrais te lever, s'il te plaît, pour que nous puissions te... Est-ce que tu pourrais te lever pour un moment, pour que nous puissions te voir et te saluer? Sois le bienvenu, que Dieu te bénisse. Un homme... à qui même on voit qu'il est intelligent, il parle six langues, il lit six langues et il écrit en six langues. Que Dieu te bénisse. Sois le bienvenu parmi nous et que Dieu te bénisse. Tu peux t'asseoir. De partout, le Seigneur appelle les siens à sortir. C'est encore le temps de la grâce et le Seigneur connaît les siens. Si nous, nous les connaissons, ça, c'est peut-être pas toujours le cas, mais lui, il les connaît. Il sait où est-ce qu'ils habitent et comment est-ce qu'ils s'appellent. Et quand l'heure arrive, alors il les appelle. Je pense encore à mon dernier voyage qui m'a très touché. Ce voyage restera dans ma mémoire. De quelle manière Dieu fait en sorte que des portes s'ouvrent et que des hommes avec la vérité soient informés de la vérité, reçoivent la vérité. Je l'ai dit il n'y a pas longtemps, il y a aussi à Zurich ici et à Zurich, peut-être pour ceux qui ne l'ont pas encore entendu. Alors que j'étais pour la première fois dans le golfe Persique et que je servais là-bas et que j'entendais ce témoignage de celui qui, jusqu'à ce temps, connaissait seulement que l'Église évangélique et savait bien qu'il y avait d'autres choses qui existaient, mais qu'il n'y avait pas de relation à ces choses. Et dans l'année 79, donc 79, il est allé en tant que professeur de la langue anglaise dans une bibliothèque américaine. Et il a trouvé là-bas la brochure d'un Allemand appelé Ewald Frank, en anglais. « Crois seulement ou ainsi dit le Seigneur », en anglais. Il a lu cette prédication, cette brochure, il a été touché, convaincu, enthousiasmé, et il m'a invité et Dieu a ouvert des portes dans ce pays et dans d'autres pays pas par un hasard, mais par une conduite divine. que cela, quelqu'un puisse m'expliquer, dans un pays islamique où le christianisme, ça n'a pas d'importance de quelle tendance, fait que être supporté, le christianisme est seulement supporté. Et malgré tout, dans un tel pays islamique, Dieu a des moyens d'appeler les siens, de les trouver, de toucher leur cœur, de s'adresser à eux. Et j'ai même entendu des témoignages où des hommes, dans une poubelle, dans un aéroport, ont trouvé une brochure et l'un l'a jeté dans la poubelle, l'autre l'a trouvé. À l'un, elle n'a rien signifié, à l'autre, elle a signifié tout. Vous voyez, quand on entend de tels témoignages, alors on doit seulement dire, Seigneur, tes chemins sont merveilleux. On peut dire, reconnaissez que l'Éternel conduit ses saints d'une manière merveilleuse. Combien de fois cela a été ainsi? Que des frères ont d'abord commandé les brochures et parce qu'ils s'étaient déjà fixés dans un enseignement, ils ne pouvaient pas continuer à marcher avec ce que Dieu avait révélé avec Frère Branham, à Frère Branham, et ils ont donc ils ont pris cette décision et c'était facile de la prendre. Il a dit, bon, nous sommes corrects dans ce que nous croyons et ces hommes-là sont dans l'erreur, donc mettons ça à la poubelle. Mais cet homme qui a trouvé cette brochure, il m'a dit, imagine-toi, le prédicateur pentecôtiste a commencé à se mettre en colère, à insulter. Et il m'a donné ce livre, il m'a dit, je peux rien faire avec cela. Ce que toi, tu en feras, c'est ton problème. Et il m'a donné cette brochure, ce livre. Et Dieu m'a touché, m'a parlé, m'a révélé. Et imagine-toi, il m'a tellement injurié. Et ce qu'il m'a donné a été pour moi une grande bénédiction. Ce sont des conduites et des directions de Dieu que dans le monde entier, on vit. Et on voit comment Dieu, le Seigneur, conduit les siens. Comment est-ce qu'il les appelle et comment est-ce qu'il les conduit à la connaissance de la vérité. Bon, nous avons déjà écouté une parole de correction et d'exhortation et il n'y a pas quelque chose qui pourrait nous faire mieux de bien, plus de bien que ça, vraiment d'une exhortation qui vient d'un cœur. Je veux parler d'un cœur de Dieu. Et la parole de Dieu vient de Dieu. Et tout ce qui est écrit sert à notre bien, nous exhorte, nous édifie, nous corrige, nous console et nous ramène sur le bon chemin. Tout ce dont nous avons besoin, Dieu, d'une manière merveilleuse, le fait par sa sainte et précieuse parole parmi nous et par son esprit. Il nous le révèle à chacun individuellement et nous montre ce qui est important pour nous et ce qui compte. Je voudrais, avec l'aide de Dieu, ce soir lire plusieurs écritures et j'espère que les frères qui traduisent pourront suivre. Je sais comment c'est difficile de traduire. Dans Hébreux, le chapitre 3, rapidement, brièvement cette parole au verset 7. Hébreux chapitre 3, verset 7. Encore en relation avec le psaume qui a été lu, le psaume 95. C'est pourquoi la parole de l'Esprit Saint est valable pour nous. Aujourd'hui, quand vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme au jour de la tentation dans le désert. Si nous continuons à lire, alors il est écrit qu'ils ont tenté Dieu, ils ont mis Dieu à l'épreuve après qu'ils aient clairement vu ses œuvres parmi eux. Et parce que Dieu, parmi le peuple d'Israël, de manière visible et perceptible et palpable. Ce s'était révélé, il a dû les rendre responsables parce que malgré ces grandes œuvres qu'il a faites parmi eux, ils ne lui ont pas fait confiance et n'ont pas pu se confier en lui. Ce ne sont pas ceux-là qui seront rendus responsables devant Dieu, qui n'ont même pas vu et entendu et vu les œuvres de Dieu, mais tous ceux qui ont vu l'œuvre et l'action et la parole de Dieu dans leur temps, qui l'ont entendu et qui l'ont vu. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Il a dit, de cette génération, tout le sang sera exigé. C'était la génération qui avait pu voir que tout, qui avait pu voir ce qui était resté caché à toutes les autres générations. Et quand le temps arrive pour une visitation spéciale de Dieu, alors nous devons mettre toute notre zèle à suivre l'action de Dieu, à ne pas la remettre en question, mais à croire et à faire confiance à Dieu. Pas à faire confiance à un homme, mais à Dieu qui toujours, et cela depuis le commencement, a toujours eu à parler par des hommes et a toujours eu à agir par des hommes. Alors que Dieu était venu à Moïse, il lui a dit, j'ai entendu le cri de mon peuple et j'ai vu leur misère et je suis descendu pour les délivrer. Mais je t'envoie, toi Moïse, je t'envoie. Et Moïse devait obéir au mandat et Dieu était avec lui et l'œuvre a pu être faite. C'est pour cette raison qu'il est écrit, c'est pourquoi la parole du de l'Esprit Saint s'adresse à nous. Et voilà, pour nous, nous savons que la parole de Dieu est venue de l'Esprit de Dieu. Et nous savons qu'elle est valable pour nous. Elle s'adresse à nous. Et l'avertissement ici est fait. Et cela est écrit ici. Aujourd'hui, quand vous entendez sa voix, nous ne sommes pas responsables pour ce qui a été fait autrefois ou bien n'a pas été fait autrefois. Cru ou bien n'a pas été cru. Nous sommes pour ces choses-là, sont responsables ceux qui vivaient dans l'époque où cela a été fait ou bien n'a pas été fait. Mais aujourd'hui, dans ce temps dans lequel nous avons le privilège d'entendre la voix de Dieu, de savoir que c'est Dieu qui nous parle et d'entendre sa parole révélée, dans laquelle sa volonté et son plan est révélé, et nous sommes informés de toutes ces choses. C'est à nous que cela est adressé. Aujourd'hui, quand nous entendons sa voix, nous ne devons pas, par l'incrédulité, remettre en question et tenter Dieu. Non, ce que Dieu a promis, il le fera certainement. Il accomplit ce qu'il a promis. Bien sûr que il était, n'est-ce pas, découragé ou alors déçu de cette génération de l'époque parce qu'il avait fait de grandes choses. Délivrance, exorde, soin de toutes, en toutes choses, et malgré tout, il ne pouvait pas croire. C'est pour cette raison que il fut déçu de cette génération, de cette race, et il a dit que ils s'égarent avec leur cœur en tout temps. Même pas avec leurs pieds. Peut-être qu'éventuellement, même ils étaient sur le chemin, extérieurement, mais le cœur n'était pas lié avec Dieu. Ne marchait pas avec Dieu. La parole n'était pas une révélation divine pour eux. Vivante, c'était pour eux une obligation de suivre. Et pas une grâce pour eux d'avoir été privilégiés d'écouter la voix de Dieu. Comme dans Deutéronome, cela est dit. Où serait un peuple qui aurait eu ce privilège d'entendre la voix de Dieu le Seigneur? Deutéronome, chapitre 4, à partir du verset 35. Deutéronome, chapitre 4, verset 35. Tu es venu pour le voir, pour savoir que l'Éternel est l'unique Dieu et qu'il n'y en a pas d'autre que lui. Du ciel, il t'a fait entendre sa voix pour t'instruire, verset 36, et sur la terre, il t'a fait voir son feu puissant. Et du milieu du feu, tu as entendu ses paroles. Le verset 39. Donc, reconnais-le aujourd'hui et prends-le à cœur que l'Éternel est Dieu en haut, dans les cieux et en bas sur la terre, et qu'il n'y en a point d'autre. Tous les autres peuples marchaient dans leur propre voie, mais le peuple de Dieu avait été appelé à, ici sur terre, marcher sur les voies de Dieu. Il y a un chemin de Dieu ici sur cette terre pour le peuple de Dieu. Une voix de Dieu. Et Ésaïe écrit au chapitre 35, il parle d'une voie, d'un sentier dressé sur lequel même un insensé ne peut pas s'égarer. Mais ce qui égare, c'est l'incrédulité. La plupart des hommes ont une bonne orientation, mais ils ne sont pas dans la foi éprouvée. Et là, nous nous demandons tous comment les choses sont pour nous, avec nous et avec notre foi. Et lié à cela, il est dit, avec notre confiance à Dieu, vraiment, dans quelles conditions nous sommes dans ces choses. Car la foi n'est rien d'autre que de faire confiance, que d'être convaincu que Dieu fait ce qu'il dit. Et celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur et s'égare et marche et va dans ses propres voies et chute. Ensuite, ici, au chapitre 4 d'Hébreu, que nous avons plusieurs fois lu dans le déroulement des années, Hébreu, chapitre 4, verset 1. C'est pourquoi, puisque la promesse d'entrer dans son repos reste à accomplir, soyons dans la crainte, de peur que l'un d'entre vous ne soit trouvé étant venu trop tard. Il n'y a pas plus grave que ça, qu'il sera constaté que l'enlèvement a eu lieu et que on est resté, on n'a pas pris part. Pour des gens qui ont vécu toute leur vie et qui, et c'est ce qu'ils ont attendu, ils se sont attendus à l'enlèvement et ensuite cela ne s'est pas accompli pour eux. Et il est écrit ici que la promesse d'entrer dans son repos reste à accomplir. Soyons dans la crainte. Pas d'avoir peur devant la condamnation, mais peur de ne pas nous déplacer dans notre propre assurance, et ça, mais avoir la certitude que les choses que nous croyons, qui nous ont été prêchées dans notre vie aussi, sont devenues une réalité parce que nous les avons expérimentées personnellement avec Dieu. Et là, déjà, ça peut commencer à ce que la raison que nous serions venus trop tard, c'est parce que les premiers pas de la foi avec Dieu n'ont pas été faits authentiquement. Et là, quelqu'un pourrait, dans ce sujet, penser à la justification, à la sanctification, au baptême du Saint-Esprit et à tout ce qui a été promis dans la Bible et à tout ce qu'on peut expérimenter. Mais en fait, ça commence d'abord avec de se tourner à Dieu. Et là, il y a un frère qui a demandé à un autre, mais est-ce que tu as déjà été baptisé d'eau? Il a dit, mais bien sûr, même deux fois. Et ça suffisait, mais ça suffisait pas au frère. Il a continué encore à demander, mais comment? Et voilà comment est-ce qu'il a demandé. Mais est-ce que de tout ton cœur, tu t'es repenti avant de te laisser baptiser? Il a dit quoi? Repentir? Non, je ne me suis pas repenti. Il dit, mais le frère a dit, bien sûr, mais donc tes deux baptêmes d'eau ne te servent à rien. Parce qu'il est écrit, tes deux baptêmes, c'est vrai, parce qu'il est écrit, répentez-vous et ensuite, que chacun de vous se laisse baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ pour la rémission, pour le pardon de vos péchés. D'abord, la repentance. Donc, la question très sérieuse est posée, à quel point des choses, nous en avons participé, nous avons pratiqué, nous avons fait, sommes passés par des étapes, mais à quel point ces étapes-là, ces choses ont été bibliques, ont été vraiment une expérience réelle, authentique, pour recevoir aussi un témoignage divin. La repentance veut dire tout simplement de recevoir un regret produit par l'Esprit de Dieu, d'être brisé de tout son cœur, d'expérimenter un regret et ressentir son état de perdu, de condamné et d'être né dans ce monde sans Dieu, sans foi, et que tout ce qu'on a fait, on l'a mal fait, on l'a fait de travers. La repentance, c'est quelque chose de profond. La repentance produit un regret profond de l'intérieur à l'extérieur, que tout ce que nous pensions être autrefois, nous devenons un rien du tout. Mais c'est quelque chose que nous ressentons. On ressent qu'on n'est rien du tout. C'est l'Esprit de Dieu qui nous fait ressentir ça. La repentance est une œuvre profonde de l'Esprit de Dieu qui a lieu en ceux qui sont déterminés au salut. Ils ne viennent pas simplement et dire oh, « Bonjour, bien-aimé Dieu, me voici. » Non, ce n'est pas possible ainsi. L'Esprit de Dieu doit nous conduire à la repentance. C'est ainsi que c'est écrit. À ce regret profond. Ne reconnais-tu pas la bonté de Dieu qui te conduit pour que tu sois conduit à la repentance? Romains 2, je ne sais même pas qui me le dit et quand. Comme déjà je l'ai dit, c'est mon grand avantage d'avoir une mauvaise mémoire. C'est peut-être raison que personne, aucun n'en peut m'en vouloir parce que et personne ne peut soupçonner le mal parce que je ne fais pas exprès. Je ne fais pas exprès, mais cela m'a pénétré le cœur. Comme une épée, l'homme peut dire, mais j'ai été baptisé deux fois. Et la question, oui, la question, mais est-ce que tu t'es repenti, etc., etc. Et ensuite, bon, non, je me suis repenti. Et alors cela m'a touché le cœur. Je me suis alors posé la question, dans quel état sommes-nous, tous? Qui réellement à expérimenter que l'Esprit de Dieu vient sur un homme. Et que ce n'est pas seulement que les yeux et que le nez coule, mais que vraiment, dans une telle détresse intérieure, dans une telle brisure, nous sommes conduits à être brisés comme si on passerait par une mule, par un moulin. Et cela nous. Et que de cette détresse, on crie à Dieu pour qu'il nous sauve. Et qu'après, nous pouvons rendre grâce, tressaillir de joie et louer pour la certitude de notre salut que on a reçu après ce passage de la brisure et du regret produit par l'Esprit de Dieu. Et cela se transforme en louange et en allégresse. Si je peux me rappeler de quelque chose qui était terrible, c'était en un tel jour, en septembre 1951, où vraiment on ne pouvait plus pleurer, mais que dans le plus profond de son cœur, on était dans une brisure que l'Esprit de Dieu a produite. On était couché sur sa face jusqu'à que le moment arrive où après tout le combat et chercher la face de Dieu et la brisure et le cri de détresse, une joie de l'âme apparaît et subitement les larmes de souffrance et de repentance se transforment en larmes de reconnaissance. La lamentation se transforme en louange et en cri de joie. Et personne n'avait besoin de me dire que je peux lever les mains pour louer le Seigneur. Ça, je ne le savais pas autrefois. Hein. Mais cela a eu lieu ainsi automatiquement, sans que quelqu'un ait besoin de me le dire. Une certitude de la foi, une certitude de mon salut qu'aucun homme peut produire ou bien ôter. De passer de la mort à la vie, d'être perdu à être sauvé, d'être passé par cette brisure du cœur et de repentance et de regret, et passer à la certitude du salut, à l'assurance de son salut devant la face de Dieu. Je le dis peut-être parce que tous nous voulons être prêts quand le Seigneur reviendra. Et nous ne voulons pas seulement avoir baptisé des hommes. Nous voulons avoir baptisé des hommes qui ont expérimenté une brisure intérieure, qui ont été brisés par l'Esprit de Dieu, qui ont été surmontés par l'Esprit de Dieu, où tout a réchauffé et a fondu comme le beurre sous le soleil. Combien de dureté de cœur, de méchanceté existe encore parmi les croyants? Le cœur est encore comme une pierre. Et cela veut dire qu'il n'y a même pas eu encore un nouveau cœur. Il n'y a pas encore un nouveau cœur. Oui ou pas? Et Dieu nous a promis. Il veut ôter le cœur de pierre et nous donner un cœur de chair qui est réceptif, qui ressent, qui est sensible à l'autre, qui a de la miséricorde de tout son cœur. Nous pouvons en fait nous examiner nous-mêmes, tout simplement, sincèrement, ce que Dieu a déjà pu faire en nous et ce qui doit encore être fait. Chacun qui n'a pas encore ce nouveau cœur, n'a pas encore reçu ce nouveau cœur, dans lequel vraiment une compassion divine de ressentir les douleurs de l'autre, un cœur dans lequel le Seigneur lui-même pouvait habiter, peut établir sa demeure. Un cœur dans lequel le Seigneur peut habiter est un cœur qui est transformé, qui est changé. C'est un cœur qui est nouveau, qui ressent, qui porte, qui succombe, qui croit, qui ressent les douleurs du prochain. S'il y a encore de la dureté, de la méchanceté, et si on a toujours raison, c'est toujours les autres qui ont mal fait, avec le poing sur la table, alors, cela est à trouver comme enseignement dans la Bible, ou bien alors, est-ce que c'est des choses que nous avons expérimentées personnellement, ce que nous croyons? C'est la question à poser. J'ai vraiment cela dans le cœur. Et je l'ai dit en le répétant, que ce ne soit pas seulement que nous ayons écouté le message puissant, divin de Dieu, pour lequel éternellement nous serons reconnaissants, mais jusqu'à dans toute éternité, mais que nous puissions être devenus des hommes à qui Dieu a vraiment fait grâce et que Dieu a fait naître de nouveau pour une espérance vivante, à régénérer des hommes qui ne sont pas enseignés, ne sont pas entrés dans le royaume de Dieu par l'enseignement, mais par une nouvelle naissance. Et mercredi, je l'ai déjà un peu dit et je voudrais ici le dire clairement. Si quelqu'un pense que ce message-là sauvera une seule personne, ça veut dire qu'il s'est trompé. Le salut vient seulement du Seigneur, qui a répandu son sang sur la croix à Golgotha. Mais le message est pour ceux qui sont sauvés, adressé à ceux qui sont sauvés, qui ont expérimenté le salut. Mais si quelqu'un dit « je crois le message », et que c'est pour cette raison que je suis sauvé, j'ai ceci, j'ai cela, non, c'est pas pour cette raison que tu as quelque chose. Il faut qu'on commence bien. L'ordre doit être correct. Et je crois que c'est là aussi qu'est continué le problème des différentes divisions et groupes à l'intérieur, ou bien alors parmi ceux qui prétendent croire le message. Et là, on entend même parler de ce que celui qui croit le message, il a le Saint-Esprit. C'est justement le contraire. Celui qui a le Saint-Esprit, c'est celui-là qui croit le message. C'est justement ça la chose. Et on doit étaler le cheval devant le chariot et pas le contraire, pas étaler le chariot devant le cheval, devant les chevaux. Et dans le monde entier, je ne sais pas combien de gens pensent être dans le message. Et je l'ai même mentionné dans la lettre scolaire. Si aujourd'hui quelqu'un demande, crois-tu le message? Alors, on doit d'abord tout de suite lui demander à cette personne, mais de quel message d'abord tu parles? Et de quel message tu parles? Car il y a, aujourd'hui, je n'ai pas pu compter combien de sortes de messages, mais tout un nombre de gens qui se sont fait un message. Non, avec Dieu, ce n'est pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Et ça ne fonctionne pas comme ça. Et parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Et avec ça, je ne vais pas parler de l'ordre qui existe ici dans un cimetière. Je parle d'un ordre divin, de l'ordre de nos expériences, de l'ordre correct de nos expériences avec Dieu et de l'action de Dieu et de sa parole promise dans notre vie. Tout doit être en accord selon l'Écriture. Avons-nous reçu l'Esprit de Dieu? Donc, nous allons aussi recevoir la parole de Dieu, le témoignage révélé de la Sainte Écriture et le message de tout notre cœur. Nous allons le recevoir. Nous allons recevoir la parole de l'Esprit, le témoignage de Dieu dans sa parole par son Esprit. Alors, parce que ce sera prouvé que à nous, par l'Esprit, il y a une relation avec la parole de Dieu qui a été inspirée et révélé par l'Esprit de Dieu. Il y aura une relation en nous avec cette parole. Alors, l'un n'aura pas besoin d'enseigner l'autre. Alors, tous seront enseignés de Dieu. Alors, on n'a pas besoin d'attendre jusqu'à que quelqu'un donne une nouvelle interprétation sur un sujet. Mais on porte en soi même la parole de Dieu dans un cœur qui est pur, qui est bon et qui est nouveau. Et nous attendons jusqu'à que Dieu la confirme et que dans notre vie, elle devient une réalité. La parole de Dieu est toujours comme une semence. Et si une semence est plantée, est semée, et que la pluie tombe sur elle, et que le soleil aussi encore brille là-dessus, alors la vie va sortir d'elle-même. Vous pouvez vous rappeler de l'exemple de Frère Branham alors qu'il parlait du grain de blé naturel et du grain de blé artificiel. Les Américains sont plus avancés que les Allemands et ils peuvent produire un grain de blé qui, dans toute sa substance, est à 100% semblable au grain naturel. Et ils font des cornflex, et etc. Et alors, Frère Branham disait, si vous voulez savoir lequel des grains est authentique, est vrai et est pas vrai, ou et n'est pas vrai, alors plantez les deux dans la terre et regardez ce qui se passe. Celui qui est naturel, qui est vrai, va sortir, va porter son fruit et l'autre va pourrir, ne sortira pas. Et là, nous avons la vérité. Parfois, la chose peut être si semblable que le naturel, que l'authentique, que le vrai, que même si c'était possible, même les élus ne pourront pas discerner la tromperie. Nous ne voulons pas quelque chose d'imité, d'hybridé, d'artificiel. Nous voulons la sainte et précieuse parole de Dieu, authentique, originale, en tant que la semence incorruptible de la parole de Dieu, dans laquelle est la vie de Dieu. Et le germe, s'il n'est pas encore sorti, en son temps, il sortira, le germe de vie. Alors on n'a même pas besoin de s'efforcer. Alors, on a seulement besoin de laisser Dieu agir dans notre vie. Si, alors que nous sommes en train d'utiliser ce mot « promesse », et nous avons toujours mis en lumière ce mot « promesse », un peuple, comme nous le sommes maintenant, des hommes qui ont été appelés à sortir par Dieu de tous les peuples et nations, les dénominations, et il nous a fait devenir son peuple qui lui appartient. C'est, nous sommes ceux-là qui écoutent les paroles de la promesse et qui croient tout de suite et qui font qu'attendre qu'elles trouvent leur accomplissement. Des hommes qui dans le royaume de Dieu, qui sont dans le royaume de Dieu, qui ont été nés dans le royaume de Dieu en raison de la promesse de Dieu, qu'ils ont cru, ces hommes-là ont reçu en eux la vie éternelle. Et comme déjà je le disais, ils ont aussi la relation personnelle, la relation produite par l'Esprit de Dieu à la parole de Dieu qui a été révélée par l'Esprit de Dieu. En même temps, ils ont installé une serrure pour toute interprétation, pour chaque explication, pour tout ce qui ici et là, à droite et à gauche, est offert, est proposé. Ils ne peuvent même pas l'accepter, le tolérer, le supporter. La parole en eux rejette ce qui ne vient pas de Dieu. Automatiquement, c'est la parole en eux qui le fait. Ce n'est pas toi et moi. Ce n'est pas tes mérites et mes mérites. C'est la grâce de Dieu qui lui-même veille sur sa parole originale qu'il a placée en nous, semée en nous. Et c'est peut-être la raison qu'il veille sur nous pour que la semence de sa parole qui est en nous, quand le temps arrivera, elle puisse pénétrer et sortir et porter de son fruit. Nous voulons être dans la crainte de peur que l'un d'entre nous ne soit trouvé étant venu trop tard. Nous savons ce qui est écrit. Il y aura des pleurs et des grincements de dents. Les gens vont crier. Montagne, tombez sur nous. Colline, couvrez-nous. Ce sera un temps terrible qui viendra. Mais Dieu ne veut pas que quelqu'un reste, après avoir reçu la grâce et l'ayant reçu en vain, et soit confus et ait honte. Il veut que nous puissions venir à la connaissance de la vérité et que ensuite la vérité nous libère, nous affranchisse, mais que nous puissions ensuite être affermis et être blanchis et sanctifié dans la parole de la vérité, par l'esprit de la vérité. Donc, c'est peut-être que nous devons faire attention, être dans la crainte et de peur que l'un d'entre nous reste. Qui le fait? Je répète encore, pas avoir peur de la condamnation, mais pas non plus se déplacer dans la propre assurance et dire que tout ira bien. Non. Nous voulons rendre les choses sûres. Que les expériences bibliques, nous les avons faites avec Dieu. Et que l'Esprit de Dieu vraiment nous a conduits à une repentance profonde. Et que, intérieurement, du profond de notre être, nous avons été saisis. J'aurais presque dit, peut-être que je devrais le dire. Cela a pu peut-être même nous causer une douleur si profonde que nous avons amèrement pleuré. Parce que au moment où l'Esprit de Dieu vient sur nous et que nous sommes conduits dans la repentance, à la repentance par l'Esprit de Dieu, alors nous reconnaissons que l'agneau de Dieu, à cause de nous, est passé par Gethsemane et a dû aller à Golgotha pour nous racheter. Au moment où l'Esprit de Dieu vient sur un homme, il y a au moins deux choses qui se passent. Nous nous reconnaissons nous-mêmes comme étant condamnés et perdus, et nous reconnaissons le Seigneur en tant que notre Sauveur qui nous a sauvés et nous le voyons dans cette douleur à cause de nous. Un homme qui est conduit par le Seigneur de Dieu dans cette profondeur, plus il ne reste plus dans le désespoir, il en sort et aboutit dans l'absolue certitude de la foi selon les Écritures. Son esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Là, il faut que... Alors, l'homme, tu n'as pas besoin de poser la question à sa femme. Est-ce que tu crois que je suis croyant? Non. Non, la femme va le savoir que son mari est croyant. Alors, On a la certitude de Dieu. On n'a pas besoin de demander à quelqu'un. Pas une chose qu'on se dise nous-mêmes. Mais parce que nous sommes passés par cette expérience, les autres le remarqueront. Vous savez, dans cet examen avec Jacob, il a combattu avec Dieu. Jusqu'à là, tout allait bien. Mais ensuite, ce combat vint. Et de combattre, de pénétrer, de persévérer jusqu'au matin. Jusqu'à l'expérience. Et d'un trompeur, d'un Jacob, il est devenu un combattant de Dieu, un Israël. Un autre homme, un homme nouveau, avec un nouveau nom, avec un nouveau chemin devant lui. Avec Dieu allant de l'avant. Nous tous qui devons faire ces expériences, et je le dis avec esprit, devons faire ces expériences. Nous voulons, ou bien nous pouvons, nous voulons demander au Seigneur que avec nous, cela ait lieu très bientôt, parce que nous ne pouvons pas attendre toutes les autres choses. Si avant ces choses-là, tout dans l'ordre correct, exact, nous n'avons pas encore déjà fait ces expériences-là avec Dieu. Alors, sinon, si ce n'est pas le cas, nous allons nous tromper nous-mêmes, tromper les autres, etc., et avoir des problèmes, et on ne rentre pas dans le repos promis. Hébreux 4, verset 9. Ainsi, un repos sabbatique est encore réservé au peuple de Dieu. Et aussi, il est écrit dans les prophètes Ésaïe, je l'ai encore lu aujourd'hui. Le méchant, les méchants n'ont pas de repos, dit l'Éternel. Nous devons entrer dans ce repos de Dieu. Sinon, avant cela, les tempêtes, et tout sera comme des tempêtes et des détresses, et des tribulations et des troubles. Mais alors nous pénétrons, nous persévérons et nous entrons dans ce repos avec Dieu et en Dieu. Et parce que la parole de Dieu dans ce temps nous a été adressée. C'est par cela que nous reconnaissons que Dieu a son chemin avec nous. S'il ne nous avait pas adressé la parole, si sa parole n'avait rien à nous dire, alors je devrais ce soir donner le conseil et de dire: Dieu ne s'est pas encore occupé de nous, mais puisque sa parole nous a touché le cœur, n'est-ce pas? Qui a eu le cœur touché par la parole de Dieu, n'est-ce pas? Nous tous, ça nous a pas seulement touché le cœur, mais sa parole brûle dans notre cœur. Alors, si les paroles de Dieu qui nous ont été adressées, si nous les observons, alors à chaque fois, nous serons enthousiasmés, touchés. Cette Bible est un livre nouveau, vivant pour nous. Tout ce qui auparavant était un énigme pour nous et incompréhensible pour nous est devenu pour nous clair et révélé pour nous tous. Donc, sa voix nous a été adressée. Nous l'avons entendue. Et par cela, par sa voix, sa parole. Car sa parole est sa voix. C'est peut-être donc que il est dit ici, c'est pourquoi la parole de l'Esprit Saint s'adresse à nous est valable pour nous. Rappelez-vous, au commencement de chaque lettre à l'Église, il est dit, écrit à l'ange et puis ensuite le nom de l'âge. Et à chaque fois, il est écrit à la fin, que celui qui a les oreilles, il entende ce que l'Esprit dit aux Églises. Ça, c'est la grande différence. Est-ce que nous sommes seulement des gens qui seulement parlent de ces choses, ou bien qui répètent ce qui a été dit, ou bien alors est-ce que le Saint-Esprit a pu nous révéler la parole de Dieu et nous la rendre vivante? Alors, si ce n'est pas le cas, l'amertume, l'incrédulité et l'épreuve, donc toute la déception et la défaite, et Dieu devait jurer dans sa colère, ils n'entreront pas dans son repos. Alors la promesse est faite. Il y a un repos sabbatique réservé au peuple de Dieu. Donc, nous voulons être dans la crainte et entrer dans son repos de peur que l'un d'entre nous ne soit trouvé étant venu trop tard. Je nous souhaite à tous un chemin biblique du commencement jusqu'à la fin. Que Dieu puisse nous parler, nous toucher le cœur et que son esprit puisse nous briser le cœur, briser l'être et que ce regret divin soit produit en nous et qu'ensuite nous puissions passer à cette certitude divine où nous pouvions dire, après cette repentance divine, cette repentance de Dieu qui est venue de Dieu, que tout est devenu nouveau. Tout est devenu nouveau. Les choses anciennes sont passées. Vous voyez, la première chose a lieu avec les hommes par l'Esprit de Dieu. Les premières choses. Et alors nous nous tournons à Dieu. Le mot conversion veut dire se retourner, revenir de tes voies, de mes voies, de tes objectifs, de mes objectifs, de tes intentions, de mes intentions. Revenir à Dieu. Conversion. Revenir. Avec cette conversion, avec ce retour à Dieu, à cela est lié le regret et la repentance. Ça, c'est par cela qu'on passe pour revenir à Dieu. C'est pas possible autrement. Pour revenir à Dieu, pour être accueilli de lui et être accepté par lui, il faut être passé par une repentance de l'esprit. Alors Dieu intervient et nous donne la certitude que nous sommes réconciliés avec lui. Nous qui étions ennemis dans nos pensées et que nos péchés sont couverts et sont pardonnés et que nous avons reçu le pardon. Au moment où alors cette certitude de la foi, avec une joie profonde et une reconnaissance, monte à Dieu dans l'allégresse. Rien d'autre ne se passe si ce n'est que la relation avec Dieu soit rétablie et que son esprit rende témoignage à notre esprit que nous sommes devenus enfants de Dieu. Et à ce moment-là, un nouveau cœur et un nouvel esprit est là. Pas seulement que comme ça, ça reste en chemin, mais c'est d'avoir pénétré, d'avoir combattu jusqu'à ce que nous expérimentions ce que le Seigneur veut faire et il donne même la réponse du haut des cieux. Il nous donne la réponse du haut des cieux par le Saint-Esprit qui vient sur tous ceux. Et s'il vous plaît, ne le mettez pas au mur. Ça, c'est la parole de Dieu. Et elle est dans la première prédication de Pierre et c'est écrit, « Répentez-vous et que chacun de vous se laisse baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Alors, vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Ça, c'est la réponse de Dieu pour les croyants. Chaque autre réponse est une propre réponse ou bien alors réponse d'un autre. La réponse qui vient de Dieu doit aujourd'hui être la même réponse qu'a été pour les premiers chrétiens dans les Actes des Apôtres. Un homme qui s'est converti à Dieu et qui suit le Seigneur commence le chemin de l'obéissance et de la foi et d'abord se laisse baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dieu voit cet homme désormais comme sa possession, qui est devenu sa possession. Et cet homme-là se tient sous un ciel ouvert. Et l'Esprit de Dieu doit se répandre sur lui. Pour rendre témoignage, tu m'appartiens désormais. Ça, c'est le sceau divin de ceux qui ont cru. Et s'il est écrit que nous sommes scellés de l'esprit de la promesse, alors cela ne doit pas seulement être écrit, n'a pas le droit seulement d'être écrit dans Éphésiens 1, verset 13 ou bien 4, verset 30. Alors il faut que aussi dans ma vie cela soit écrit et que cela soit écrit dans ta vie. Il faut que cela soit devenu une réalité divine, une expérience personnelle que tu as faite avec Dieu. À quoi est-ce que ça nous sert? Si toutes ces choses-là, nous puissions nous garnir avec ces choses des versets bibliques de la tête aux pieds, sans que nous ayons fait ces expériences personnelles avec Dieu. Si se référer à la Bible ou bien connaître toutes les promesses aurait pu sauver quelqu'un, non, ça je ne le crois pas. Nous devons avoir fait cette expérience personnellement avec Dieu. Et je sais que dans le passé, il y a beaucoup de choses qui se sont passées qui n'auront pas dû se passer. Mais cela ne change absolument rien en ce que des hommes, encore aujourd'hui, puissent faire les expériences bibliques avec Dieu. Et cela dans l'ordre. Qui veut ça? Dans l'ordre correct. Qui veut ça? L'amen était faible. L'amen était faible. C'est une grande différence. Est-ce que des hommes seulement ont été oints et sont oints et ensuite continuent à marcher dans leur propre voie et dans leur propre pensée? Ou bien alors, est-ce que des hommes ont entendu la voix de Dieu, qui est la parole de Dieu, révélée par le Saint-Esprit dans ce temps? Des hommes l'ont entendu. Ici, nous ne parlons pas je ne m'adresse pas à un mouvement charismatique. Nous ne sommes pas ici pour couronner le Babylone. Nous sommes ici en tant que des hommes qui sont sortis de Babylone, de Babel. Nous ne parlons pas ici de ce que quelqu'un doit faire. Ou bien même ce que nous devons montrer et dire à l'autre pour qu'il puisse répéter. Non, nous sommes en train de parler de ce que nous, comme croyants, que le Seigneur a appelé, qui ont écouté sa parole, sa vraie parole, et qui ensuite, elle nous a été vraiment révélée par le Saint-Esprit. Nous pouvons et nous devons faire les expériences bibliques dans l'ordre correct avec Dieu, sans s'occuper de ce que les autres font. Et frère Branham le dit, c'est le temps où maintenant de toutes les dénominations, les gens sortent pour chercher l'huile de l'esprit. Alors il dit, reconnaissez par cela que c'est le temps dans lequel l'époux revient. Car, c'est ainsi que c'est écrit, quand les vierges folles iront pour chercher de l'huile, alors l'époux revient et celles qui furent prêtes entrèrent. Et qu'est-ce qu'ils avaient dans leur lampe? De l'huile. Et qu'est-ce qu'ils avaient dans leur vase? De l'huile. Et avec cela, ça suffit jusqu'à l'heure de minuit. Nous ne voulons pas de sensations. Et je le répète encore une fois clairement, nous ne voulons pas ici de théâtre charismatique ou bien de. Mais nous avons un droit clair à l'accomplissement des promesses de Dieu dans notre vie. Nous avons un droit clair à toutes les expériences que nos frères et sœurs ont fait au commencement. C'est seulement comme ça que nous pourrons atteindre le but. C'est comme ça que l'Église, à la fin, atteindra le but si elle revient à la même union en esprit, à la même foi, au même baptême, que ce soit dans l'eau ou bien dans l'esprit. Nous allons seulement comme ça atteindre le but sous la conduite du Saint-Esprit après que la parole ait produit clairement son effet en nous. Et c'est seulement comme ça que cette union divine entre Christ et l'Église et les uns avec les autres aura lieu. Ici, au verset Hébreux 4, verset 3, il est écrit, mais nous qui sommes parvenus à la foi, nous entrons dans le repos, comme il l'a dit, mais nous qui sommes parvenus à la foi, nous entrons dans le repos. Je pourrais, comme il a dit, je pourrais vous lire la parole de Néhémie où il est écrit « Et l'Esprit de Dieu les a fait entrer dans le repos. » Il y a un repos présent, réservé, un repos sabbatique, un repos céleste, divin, par Dieu, par le Saint-Esprit, dans le Saint-Esprit. Nous avons les Écritures où il est dit qu'il y en a trois qui rendent témoignage. Donc l'eau, l'esprit et le sang. Et nous avons toujours eu à le dire, ces trois doivent produire leur effet dans les croyants. Il n'y a pas un autre chemin pour atteindre le but. Pour nous, ce n'est pas un message ou bien c'est pas un message ou bien un message, c'est pas un messager qui est mort pour nous dans lequel il serait contenu le salut. Non, le Fils de Dieu, Jésus-Christ, est mort, lui qui nous a apporté le salut. Mais par cela que nous avons été sauvés et que nous avons reçu la vie de Dieu, c'est par cela que la relation nous a été accordée à la parole de Dieu, au message de Dieu, au royaume de Dieu, au plan de Dieu, à tout ce qui vient de Dieu. C'est par cette expérience que ces choses nous ont été accordées. La relation avec toutes ces choses. Mais d'abord, les expériences et ensuite s'ajoute l'enseignement et l'introduction dans tous les mystères de Dieu. Et je voudrais pas être mal compris, hein. Je crois à 100% que tous les vrais enfants de Dieu, dans ces jours, écoutent la parole de Dieu pour cette heure, je veux dire pour notre temps. Ils doivent l'écouter, ils doivent l'écouter s'ils veulent se tenir devant Dieu. Survenir devant Dieu, il n'y a pas un autre chemin. On peut faire ce qu'on veut et dire, oh, j'ai expérimenté Dieu, le Seigneur, alléluia, gloire à Dieu. Mais en ce qui concerne cette chose-là, ça ne me concerne pas. Non, je veux à aucun prix que quelqu'un pense que la parole de Dieu, pour ce temps, n'appartient pas au royaume de Dieu. Bien au contraire, elle appartient absolument au royaume de Dieu. Mais je veux savoir que les choses sont ordonnées correctement, de manière divine. S'il y a encore des croyants qui sont là, qui se réfèrent à leur expérience, mais qui ne sont pas prêts à croire la parole révélée avec toutes les promesses qui sont nécessaires pour l'achèvement de l'histoire du salut, qui ne sont même pas prêts à l'accepter, mais qui marchent dans leur propre voie avec des trompettes et des cymbales, ils n'atteindront pas le but. La même parole leur sera dite, comme le Seigneur l'a dit ici. Ils ne furent pas prêts à écouter ma parole. C'est peut-être que cette race m'a déçu. Pensez-vous que des hommes qui voulaient servir Dieu, Dieu ne permettrait pas qu'ils entrent dans la gloire seulement parce qu'ils étaient étranges? Non, c'est parce qu'ils s'opposaient, ils ont contesté sa volonté et sa parole. Et ont fait comme s'ils n'avaient rien à leur dire. Et ils ont marché dans leur propre voie. Dieu a ses voies, son chemin avec son peuple. Il a son plan avec son Église. Et les élus dans tous les âges ont, dans leur temps, écouté la parole annoncée de Dieu et l'ont acceptée. Et par cela, ils ont confirmé que Dieu est véritable. Et c'est ainsi que ce sont ceux-là qui nous ont déjà précédés. Ils sont dans la gloire. Donc, tout dans un équilibre parfait, le salut, notre âme sauvée, la parole, l'esprit, le baptême, tous les enseignements, toutes les expériences, quoi que ce soit, jusqu'à venir à croire au message et au messager, jusqu'à l'achèvement de l'Église épouse et son enlèvement, tout doit être ordonné correctement, bibliquement et être expérimenté personnellement. Et ça aussi, nous l'avons exposé, que la théorie sur ces choses-là, aide personne. Mais il y a une chose que nous pouvons dire, et je veux dire cela avec, pouvoir dire avec cela, avec une bonne conscience, prétendre cela de nous, avec une bonne conscience, que Dieu nous a touché le cœur, nous a atteint avec sa parole, et que, j'aurais presque dit, il a parlé avec nous de face à face. Je n'ai plus vu de rideau, toi, de voile. Toi, tu en as vu, moi, je n'ai plus vu de voile. La gloire de Dieu nous a brillé sur nous, sur la face de Christ. Je n'ai plus vu de voile et de rideaux. J'ai écouté les claires révélations de la parole vivante du Dieu Tout-Puissant. Et de tout mon cœur, je le crois. Ça, c'est la confirmation que nous sommes sur le bon chemin. Cela n'annule pas que chacun individuellement doit faire ses expériences personnelles avec Dieu pour ensuite entrer dans cette relation personnelle intime avec lui et aussi les uns avec les autres. Ensuite, il est dit au verset 6, dans Hébreux chapitre 4, verset 6. Ainsi, puisque l'entrée de certains dans le repos promis demeure, et que d'autre part, ceux qui ont reçu les premiers, le message de joie, n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance. Qu'est-ce que c'était? Le peuple de Dieu. Message de joie. Les promesses ont été données. Et ils étaient le peuple de Dieu. Tout était là. Ils avaient les promesses et tout. Et ensuite suivit la révolte, l'incrédulité, la désobéissance a suivi et Dieu. Ainsi, Dieu a dû faire subir à son peuple des choses, son peuple qu'il avait aimé. Il lui a fait subir des choses graves, les mêmes choses qu'il a fait subir aux autres peuples qu'il n'avait même pas aimé et appelé à sortir par un exode et tout ça. Parce qu'il voyait que tous ses efforts d'amour et tout ce qu'il avait fait avait été laissé sans estime par eux. Et il vit qu'ils s'égaraient avec leur cœur en tout temps. Un homme dont le cœur n'a pas été régénéré s'égarera. C'est le déroulement terrestre du cœur de pierre naturel. Là, on peut graver toutes sortes de choses, mais pas la parole de Dieu. On a besoin d'un cœur nouveau, d'un cœur de chair, un cœur qui ressent, un cœur qui reçoit. Et si dans notre temps, nous écoutons par nos oreilles et voyons par nos yeux, alors je vois deux lignes parmi les enfants de Dieu. Les uns ont un cœur tendre, un cœur qu'on peut considérer comme renouvelé. Les autres ont un cœur de pierre. Ils parlent de la grâce de Dieu, mais ils ont caché derrière le marteau de la loi. Et à chaque moment, ils frappent. Un homme dont le cœur a été régénéré par Dieu, changé par Dieu, il ressent comme le Seigneur a ressenti. Le peuple l'attristera. Il aura de la compassion pour le peuple. Il compatira avec la condition du peuple, avec l'état du peuple. Et si ce n'est pas comme ça, en nous, ça veut dire que le cœur est encore de pierre. C'est endurci, c'est fermé. Alors, nous avons reçu des choses avec notre compréhension humaine, avec la tête, et le cœur est resté vide. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur, un cœur nouveau, un cœur pour l'honneur de ton nom et de ta gloire. Comme il n'y a pas longtemps, quelqu'un disait, je voudrais être selon le cœur de Dieu. Vous savez, nous avons parfois des souhaits. Mais ici, il ne s'agit pas seulement d'un souhait. Ici, il s'agit de ce que Dieu nous fasse grâce et que parmi nous et dans notre vie, il puisse agir puissamment, que à tel point que en chacun, très bientôt, toutes ces expériences sont visibles et que tous, dans le même pas, nous soyons liés dans l'amour divin et qu'il n'y ait plus personne qui aurait besoin de prêcher sur l'amour, alors on pourra dire, regardez, comme ils s'aiment les uns les autres. Et c'est en cela que le monde reconnaîtra que nous sommes des enfants de Dieu, les disciples du Seigneur. Si cet amour divin est parmi nous, est dans notre cœur nouveau, répandu par le Saint-Esprit, je vous le dis, alors vous pouvez même aimer des hommes qui se sont désignés en votre égard comme des ennemis. Nous-mêmes n'avons pas d'ennemis. Je n'ai pas un seul ennemi. Vous le savez vous-même. Mais beaucoup me considèrent comme leur ennemi. On ne peut pas changer les choses. C'est toujours important de savoir quel rôle joue l'un ou l'autre. Et où est-ce que l'un et l'autre se tient. Notre Seigneur, qui était l'amour de Dieu révélé, manifesté, a été haï, a été frappé, a été meurtri. Il avait beaucoup qu'il a dû supporter et surmonter. Mais il pouvait même à la croix, sur la croix, donc crucifié sur la croix, il pouvait encore dire sur la croix, « Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ça n'a pas d'importance. Il a prié pour eux. Ça n'a pas d'importance ce que les gens puissent te faire. Si ton cœur est régénéré, est changé et est rempli de l'amour de Dieu, tu vois avec des yeux divins. Alors, tu écoutes avec des oreilles divines et tu reçois avec le cœur de Jésus-Christ, ton Seigneur et ton Rédempteur. Et alors, tu ne peux en vouloir à personne. Tu peux que ressentir de la tristesse. Mais dans ton cœur, tu ne permettras aucune pensée négative sur ton prochain. J'ai une demande à vous tous. Parce que je sais exactement. Sur ton frère, sur ta sœur. Parce que je sais qu'il y en a, il y a celui-là qui n'aime pas celui-là. Je sais, et tout ça, il y a encore des pensées charnelles parmi le peuple de Dieu. Comme ça, nous ne pouvons pas plaire à Dieu. Si l'un a encore quelque chose contre l'autre, et il y a des rancunes, et tout ça, ce sont des pensées charnelles. Celui-là m'a fait cela, celui-là m'a dessus, celui-là m'a fait cela. Comme ça, vous pourrez aider personne. Mettez-vous du côté du Seigneur. Et que tous les autres se mettent du côté du Seigneur. Alors tout sera en ordre. Mais tant qu'on pense que quelqu'un s'est mal comporté, a fait une erreur. Si l'un est de ce côté et l'autre est de ce côté, donc il y a déjà deux côtés et il y a des parties. Et il y a encore des parties et des groupes. Et comment ça devrait continuer? Non. Je le dis par pleine conviction. La fin directe sera semblable au commencement direct dans les actes d'apôtres. Et au direct commencement, Satan n'avait même pas son pied au seuil de la porte. Il n'avait aucune influence. Il y avait dans les premiers commandements de l'Église, le commencement de l'Église, il y avait l'amour divin et il y avait l'union de l'esprit. Un seul cœur, un seul âme. Il n'y avait rien parmi les frères et les sœurs. Et l'endroit s'ébranlait et Dieu répondait, exauçait leur prière. Est-ce que nous voulons mettre de côté toutes nos pensées charnelles qui sont désignées de charnelles et qui ne peuvent pas plaire à Dieu? Tout ce qu'on pense avoir les uns contre les autres. Et disons, Seigneur, que j'ai les sentiments que tu avais, l'esprit que tu avais. Accorde-moi un cœur comme toi, les pensées que tu avais, les sentiments que tu avais, plein de sainteté, de pureté, de foi et d'amour. Oh, comment ça me réjouirait. Et je pense que nous tous, si Dieu pouvait nous visiter et nous remplir à tel point que chacun fasse son expérience très personnelle avec lui. Et alors, on n'a plus besoin de demander « Levons-nous pour la prière ». On n'a plus besoin de demander « Nous voulons louer le Seigneur ». Alors chacun se sentira comme à la maison. Celui qui doit pleurer, pleurera. Celui qui veut remercier, remerciera. Celui qui veut supplier, suppliera. Quoi que chacun veut faire, personne ne sera dérangé et personne ne se laissera déranger par l'autre. Tous cherchent la face de Dieu sous le sang de l'agneau et viennent devant le trône de la grâce pour recevoir du secours au temps convenable. Aujourd'hui, nous écoutons le message divin, nous l'acceptons et nous le croyons. Et nous sommes prêts, avec l'aide de Dieu, jusqu'à la fin, à suivre le Seigneur. Qu'il puisse seulement nous permettre, nous donner cette grâce d'accepter, d'expérimenter personnellement tout ce qui est nécessaire pour atteindre le but. Je veux encore insister là-dessus. Que rien ne nous manque le jour du retour du Seigneur. De peur que l'un d'entre nous ne soit trouvé étant venu trop tard. S'il nous manque quelque chose. Si des incroyants et des hommes qui ne portent pas en eux cette espérance vivante sont restés, viennent trop tard. C'est pas trop grave. Ils seront pas déçus. Ils ont rien attendu. Mais nous qui avons vécu pour l'enlèvement, pour être enlevés, et qui avons mis tout notre vie dans ces choses, et ensuite que nous devrions rester. Je sais pas comment nous allons le ressentir. Mais personne sera confus qui met sa confiance dans le Seigneur. Personne. Chacun peut et fera ses expériences avec Dieu. Je suis convaincu que aussi ce soir, pour cette réunion de ce soir portera par la grâce de Dieu son fruit en chacun de nous. Produira son fruit. Que son nom soit loué. Amen. Amen. Levons-nous pour la prière. Père Céleste, nous te remercions encore de la profondeur de notre cœur, de ce que nous avons eu la grâce d'écouter par ta grâce. Nous ne voulons pas nous tenir là comme déçus, mais accorde-nous un cœur comme toi. Ô Seigneur, nous ne pouvons rien nous procurer, même un cœur brisé, rien du tout. Accorde ta grâce pendant ces heures, pendant que nous avons écouté ta parole. Accorde ta grâce, ô Dieu, pour que notre cœur soit comme des cœurs, soit changé comme des cœurs de chair et pas des cœurs de pierre. Accorde-le-nous à tous, que cela soit une réalité, que cela soit ainsi. Nous pouvons l'avoir expérimenté, mais comment est-ce que nous nous tenons aujourd'hui? Comment est-ce que c'est aujourd'hui? Hein? Seigneur, accorde ta grâce à tous pour que nous puissions nous examiner nous-mêmes, nous éprouver. Et Seigneur, fais-nous grâce. Aide-moi, aide-nous pendant ces jours. Nous savons, tu sais dans quel jour nous sommes arrivés, Seigneur. Mon Dieu, où les hommes pensent être quelque chose, vouloir quelque chose, mais nous voulons nous tenir à tes côtés. Nous voulons marcher avec toi. Nous voulons être prêts quand tu reviendras. Agrée-nous tels que nous sommes. C'est ma prière et c'est mon désir. Et je crois que c'est notre prière à nous tous. Secours, aide mon frère, aide ma sœur, aide-nous tous ce soir, Seigneur. Nous venons dans l'humilité devant toi. Nous, avec un cœur humilié, prosterné, courbé, nous venons à toi ensemble, nous invoquons ton nom. Nous venons pas nous réunir par habitude, mais nous venons pour nous laisser corriger, pour nous laisser préparer pour ton retour proche, car tu apparaîtras bientôt. Oui, tu viendras prendre les tiens bientôt dans ta gloire, dans ta demeure. Que nous ne soyons pas des gens qui ont été trompés. Que nous ne soyons pas, que nous disions, que nous croyons au message sans avoir fait des expériences, les expériences nécessaires pour notre préparation avec toi. Seigneur, accorde ta grâce. Accorde à moi ta grâce. Accorde à ton peuple. Accorde-nous à tous ta grâce pour que nous puissions t'expérimenter comme au commencement. Que nous puissions dire, Seigneur, aujourd'hui, dans mon cœur, le salut est venu. Oh, aide-nous, Seigneur. Nous avons besoin de toi quotidiennement et toutes les heures, particulièrement tous ceux qui, Seigneur, sont exposés dans ce monde avec leur métier, au travail, à leur place, etc. Aide chacun, Seigneur, nous avons besoin de toi, car nous voyons quelle génération tordue, où l'ennemi a tordu tout, et où tout est en train d'apparaître, tous ces temps mauvais. Mais Seigneur, nous savons que tu reviens bientôt. Aide-nous, aide ceux qui sont en possession, ceux à qui tu as parlé, et à qui tu parles encore, oh Dieu. Nous t'adorons et nous te demandons ta grâce. Et te demandons de nous pardonner. Accorde-nous un cœur pur, un cœur nouveau. Accorde-le-moi, accorde-le-nous à tous, oh Dieu. Accorde-nous une expérience réelle avec toi. Ce soir même, nous avons besoin de plus encore. Nous te le demandons dans ton merveilleux et glorieux nom de Jésus. Alléluia. Gloire et honneur et adoration soient apportées à ton saint nom. Alléluia. Alléluia. Amen.